Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani. Il est exactement 8h à Ségou et à Kaï. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette matinale présentée par Sékou Gadjigo. Dans les titres de cette édition, après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, beaucoup s'interrogent sur les éventuelles conséquences de cette sortie pour les deux parties. Les réponses des analystes politiques et économiques dans ce journal. Le festival Ségou Art s'ouvre ce mardi dans la cité des Balanzans. Selon les organisateurs, pour cette 20e édition, plus de 300 000 visiteurs sont attendus. Cannes Côte d'Ivoire 2023, pour le compte des huitièmes de finale, le Mali affronte ce soir le Burkina Faso. Hier, le Sénégal, tenant du titre, est tombé devant la Côte d'Ivoire. Tout de suite, le développement de ce titre. Mamadou Ouattara sur la mise en onde, mesdames, messieurs, bienvenue. Suite à l'annonce du retrait de la CEDEAO, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, des questions se posent sur les éventuelles conséquences de cette sortie sur ces trois pays de l'AES, mais également sur l'organisation ouest-africaine. Des analystes estiment que ce retrait peut avoir des impacts positifs comme négatifs sur ces deux parties. Le reportage de Lali Tangara.
Le politologue Balanja Kité soutient que ce retrait permettra aux trois pays d'intensifier leur coopération sur le plan politique sans restriction extérieure. Il prévient toutefois que ce retrait de la CEDEAO peut avoir des impacts négatifs.
C'est un moyen pour ces trois États de se concentrer davantage sur les politiques publiques internes sans pour autant être entravés à des restrictions d'ordre régional. Il y a aussi des conséquences néfastes. Se retirer de la CEDEAO, ces États-là ont des voisins immédiats qui sont dans la CEDEAO. Cela peut créer des situations de velléité.
Pour l'économiste Dr Lamine Keïta, ce retrait des pays de l'AES de la CEDEAO aura des conséquences économiques sur ces trois États, mais elle va aussi impacter les autres pays en termes de change commercial.
On ne peut pas sortir d'une organisation sans impact, pas seulement pour soi-même, parce qu'on y est pour échanger. Si on bloque l'échange, on n'est pas le seul perdant, tous les autres partenaires qui échangent à nous vont perdre. Quitter une telle situation, c'est trouver une solution, c'est-à-dire trouver une nouvelle relation avec les autres pays.
L'une des premières conséquences de cette sortie pourrait être la difficulté de circuler pour les ressortissants de ces trois pays dans l'espace CEDEAO. Ceux-ci ne pourront plus utiliser les documents comme le passeport et la carte biométrique CEDEAO pour se déplacer. Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Direction Kidal, où le trafic a été de nouveau suspendu à cause de l'insécurité sur l'axe Kidal-Gao. Une semaine après sa reprise, selon plusieurs sources, deux compagnies de transport desservant l'axe Kidal-Gao ont été attaquées par des hommes armés à deux reprises entre mardi 23 et jeudi 25 janvier 2024. Pour la sécurité des passagers et celle de leur personnel, les compagnies de transport ont jugé urgent d'arrêter les navettes entre Kidal et Gao jusqu'à nouvel ordre. Je vous le disais dans les titres, la 20e édition du festival sur le Niger Ségou Art s'ouvre ce mardi 30 janvier à Ségou. Il se poursuivra jusqu'au 4 février 2024 dans la cité des Balanzans. Au programme, des concerts géants, des expositions d'art visuel, les prestations d'artistes, des troupes de théâtre, des tables rondes sur les sujets d'actualité et de société, mais aussi la foire artisanale agricole. Selon les estimations de la commission d'organisation, la foire de Ségou, forte de 400 artisans, enregistrera cette année plus de 300 000 visiteurs. De Ségou, nous retrouvons notre envoyé spécial Intalak Bilal.
Et donc, la commission d'organisation du festival Ségou RCV est un espace de promotion d'art africain. Il réunit les galeristes, les collectionneurs et amateurs d'art ainsi que les œuvres des jeunes talents. Ségou Art, c'est aussi un marché d'art qui vise à promouvoir la créativité des artistes maliens. Pour cette 20e édition, les promesses sont grandes. Sur le plan musical, les animations se feront avec les artistes nationaux et internationaux sur les berges du fleuve Niger, à la fondation Festival sur le Niger, mais également sur la scène Biton. Pour des membres de la commission, des artistes tels que Abdoulaye Diabaté, Djaneba Sek, Neba Solo, Paco Siri de la Côte d'Ivoire et bien d'autres artistes internationaux feront monter les décibels. Il y aura également des performances de théâtre, des contes au Centre culturel Corée de Ségou et des spectacles de danse à la Fondation Festival sur le Niger. Pour les 20 ans du festival, des manifestations traditionnelles telles que les bara, la course de pirogues, les coureux d'Ougaou, les teintes de Touareg et les masques de leurs cousins de Gon sont prévus. De Ségou, Intala Akbilal pour Studio Tamani.
Journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
On ouvre ce journal de la CAN par cette qualification du Cap-Vert pour les quarts de finale après sa victoire hier sur la Mauritanie, 1-0. Le Sénégal, champion en titre, est tombé devant la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition, 4 tirs au but contre 5. Un match plein d'émotions pour les Ivoiriens qui ont frôlé l'élimination au premier tour. Les dernières huitièmes de finale se jouent aujourd'hui à 17h. Les Aigles du Mali affrontent les Étalons du Burkina Faso et à 20h, les Lions de l'Atlas du Maroc jouent contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur du Mali, Eric Sekou Chell, a dit croire aux chances de son équipe dans ce duel entre pays frères. Il est au micro de notre envoyé spécial Zamongon à Korogo.
Je me suis préparé pour ça, je me suis préparé pour cette compétition. Ça a toujours été mon objectif numéro un. Je ne dis pas que j'allais la gagner, je ne dis pas que j'allais la perdre, mais j'ai toujours voulu jouer cette compétition. Et aujourd'hui, sur un plan plus personnel, c'est une satisfaction d'être là. Et ce sera une grande satisfaction après le match, s'il y a victoire. Voilà, moi aujourd'hui, je suis focalisé sur mes joueurs, sur l'entourage de cette équipe, sur l'environnement, sur le premier environnement. Et je suis focalisé sur le match qui arrive là dans 24 heures, sur notre projet de jeu, sur notre plan de jeu, l'un des matchs les plus importants du football malien. Le match qui arrive est toujours le plus important. Donc là, pour moi, c'est très clair, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants. Déjà pour cette génération, parce que cette génération a besoin de gagner des matchs et a besoin d'avoir finalement cette consécration par rapport à leur talent, voilà, qu'ils n'ont pas eu.
Selon le journaliste sportif Souleymane Bobo Tunkara, les prestations jusqu'à ce jour sont salutaires. Il souligne qu'il est difficile de dire qu'un tel pays est favori, car il n'y a que des surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est joint au téléphone par Lala Aïcha Walet Infa.
Regardez un peu le cas de la Namibie, de la Mauritanie, de la Guinée équatoriale, du Cap-Vert, qu'on n'attendait pas du tout en huitième de finale, mais qui sont tous qualifiés. Dans toute compétition, il y a des favoris. Je veux parler du Sénégal, qui est champion d'Afrique en titre, qui a été le seul pays à gagner tous ces trois matchs du Nigeria, qui a été le deuxième pays à se qualifier pour les quarts de finale. Du Maroc, il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe d'Afrique, et c'est très difficile de dire que tel pays est favori, tel pays peut remporter la Coupe d'Afrique. Je pense que pour le moment, on assiste à un événement de valeur. Les petits poussés ont vraiment grandi. Maintenant, on attend certains outsiders, notamment le Mali, qui va jouer contre le Burkina et le Burkina Faso aussi. On va voir ce que ces pays-là sont capables de faire.
La rencontre au Mali-Burkina est perçue par des ressortissants burkinabés résidents au Mali comme un match amical. Parmi eux, certains misent sur une victoire du Mali sur le Burkina, d'autres le contraire. Ils se sont exprimés à Sikasso, Koutiala, Banjagara, Ségou, Yoroso et Bamako. Ils sont au micro de nos reporters, de nos correspondants, un micro-trottoir réalisé avec l'appui de Mamadou Samasikou.
Le papa, c'est l'AES. L'essentiel est que l'une des deux équipes là aille à la finale et remporte la coupe. Je sais pour la victoire du Mali.
Que le meilleur gagne. Pour moi, quand même, je supporte le Burkina Faso.
Nous sommes très heureuses. Pour nous, c'est un match amical entre des frères. C'est la même famille. Quel que soit le gagnant, la coupe revient en famille.
On ne peut pas prédire le vainqueur avant le match. Quel que soit le résultat, c'est une victoire de l'Afrique. Que les gens comprennent ça.
Quel que soit le vainqueur entre le Burkina et le Mali, c'est une famille. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Le football, c'est un jeu. Que le meilleur remporte la coupe.
La CAN en une anecdote nous parle de la fausse crampe de Copa Barry. On s'en souvient lors de la finale de la CAN 2015. Le gardien de but des éléphants a simulé une fausse crampe pour ne pas participer à la séance des tirs au but. Amsé Touré.
La Côte d'Ivoire a remporté la deuxième CAN de son histoire en 2015. Le tout au bout du suspense lors d'une interminable séance de tirs au but face au Ghana, dont le héros final n'est autre que Copa Barry. Alors qu'il vient de repousser la tentative du gardien ghanéen, c'est à lui d'aller se présenter au point de pénalty pour la balle du titre. Mais il en est incapable. Allongé, le portier se plaint de crampes. L'arbitre assistant observe la scène. Il remarque que l'éléphant est en train de simuler une blessure pour ne pas avoir à aller tirer. Après des échanges avec l'arbitre, Copa Barry s'est relevé pour aller inscrire le tir au but victorieux. Et après, il a sprinté pendant que ses coéquipiers le poursuivaient. Comme quoi, un blessé peut faire cette course de vitesse.
Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadji Gomis en nom de Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Aissata Diarra sur Allah pour les infos en Bamanankan. Les détenteurs de la licence de l'école normale supérieure s'insurgent contre leur redéploiement dans les écoles fondamentales. Ce mouvement d'humeur intervient après la publication d'un communiqué de l'ENSUP le 23 janvier 2024. Ce document rappelle la gestion après formation des enseignants diplômés de licence. Il indique que les sortants des instituts de formation des maîtres et détenteurs de la licence sont tenus de retourner dans les écoles fondamentales 1 ou 2 après l'obtention de leur diplôme. Une décision qui suscite le courroux des enseignants qui déplorent l'inadéquation entre les programmes de l'ENSUP et ceux des écoles fondamentales. Notre reporter Moussa Mali Sissoko est allé à la rencontre des intéressés. Suivons ce magazine Gouvernance et Citoyenneté.
C'est en 2014 et 2015 que l'ENSUP a basculé dans les systèmes LMD, licence master doctorat. Deux filières ont été maintenues, à savoir filière professeur de l'enseignement secondaire et celle des professeurs d'enseignement fondamental. Les étudiants diplômés de la licence de cette école sont surpris d'apprendre qu'ils sont destinés à l'enseignement fondamental. Le porte-parole du collectif des enseignants aux écoles fondamentales 1 et 2, Mamadou Traoré, estime que ce redéploiement est arbitraire est illégal. C'était lors d'une assemblée générale d'information le 27 janvier dernier.
Donc ce redéploiement n'a aucun fondement juridique. Cela est paradoxal. Des toutes grandes écoles, des autres instituts forment en licence des professeurs de l'enseignement secondaire. La modification a été faite pour que l'ENSUP puisse se conformer aux normes universitaires. C'est que l'ENSUP a formé des détenteurs de licence dans des filières qui ne sont pas enseignées aux fondamentales, telles que la philosophie, la sociologie. Comment vous pouvez dire que ces programmes aussi sont adaptés aux programmes de l'enseignement fondamental?
Cette démarche n'est pas bonne et crée des difficultés dans les établissements. C'est ce qu'a dénoncé Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016.
Je donne des exemples. Je sors avec mon diplôme DFM qui m'autorise à enseigner au niveau de l'enseignement fondamental 1 ou 2. J'exerce là-bas pendant 10 ans, 15 ans. Après, j'ai fait un concours d'entrée dans une école normale supérieure. 3 ans, je sors et on me dit de retourner là où j'ai quitté. Alors que moi, quand j'ai quitté au fondamental, j'étais généraliste. On me dit de revenir et on me dit d'aller enseigner ce que j'enseignais avant d'aller à l'ENSUP. C'est une cohérence totale.
Face à cette situation, Ousmane Almoudou pense qu'un compromis avec le ministère du tutelle sur la question est une nécessité absolue.
Les cycles licences sont rentrés en 2017-2018. On disait qu'ils allaient sortir comme professeurs d'enseignement normal. C'est ce que sur les décisions de recrutement, à leur sortie, on leur dit qu'ils sont des PF, professeurs d'enseignement fondamental. Et quand tu sors avec une licence, tu dois être professeur d'enseignement fondamental. Ce qui est archi faux, parce que pour être professeur d'enseignement fondamental, il faut suivre une formation de professeur d'enseignement fondamental. Et ceux-là qui sortent n'ont pas fait de formation de professeurs d'enseignement fondamental parce que la filière elle-même elle est fermée.
Pour le directeur général adjoint de l'ENSUP, Moussa Kefin Kanté, ces enseignants du premier et second cycle devront retourner dans leurs écoles respectives pour renforcer les capacités pédagogiques de l'établissement. Car selon lui, les programmes de la filière licence de l'ENSUP ne permettent pas d'enseigner au secondaire.
À la fin de leur formation, ils obtiennent le diplôme qu'on appelle la licence. Donc ça fait 6 semestres de formation. À la fin de ça, ils déposent un rapport, pas un mémoire. Le programme qu'on leur donne là, ils ne sont pas préparés pour les lycées. Il y a une loi qui est là, 16 janvier 2018, aussi recommande cela, à son article 23. Leur stage se déroule où ? Ça se déroule dans les écoles fondamentales. Ils n'ont jamais mis un pied dans les lycées pour faire les stages.
Comment étudier à l'ENSUP ? Le professeur Moussa Kefin Kanté explique que l'entrée à l'école normale supérieure est subordonnée à un concours aussi bien pour les étudiants et pour les professionnels.
Pour venir à l'ENSUP, il y a deux options. Ceux qui viennent pour le master et ceux qui viennent pour la licence. Ceux qui sont dans les établissements d'enseignement public et privés peuvent venir faire ce concours. Ceux qui font le master, ça c'est les étudiants réguliers généralement, c'est eux qui font leur stage dans les établissements d'enseignement secondaire général. Donc pour enseigner dans les lycées, il faut le master.
Quelles sont les lois qui régissent les grandes écoles et universités du Mali? Nos tentatives pour faire réagir la Direction générale de l'enseignement supérieur sont restées vaines.